Bonjour messieurs, dames. Bonjour la belle-mère, que Dieu vous bénisse. J'espère que ça va bien de votre côté. Il fait soleil pour l'instant. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. Bien le bonjour à André aussi, s'il est à vos côtés ce matin. Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis. Merci Rosie. Bonjour Yolaine, que Dieu te bénisse. Bonjour Tati, sois bénie. Bonjour Rachel, bonjour aux sœurs qui sont avec toi. Chantal, Mona, Auxilia, peut-être d'autres. Si c'est le cas, il faut nous dire qui t'accompagne de surcroît aux sœurs qu'on a nommées. Merci Rosie. Bonjour Guy, sois bénie. Gentille Hélène, soyons effectivement tous bénis. Hermana Susana, que Dios la bendiga, a usted y a su esposo también. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour Lucie, soyez bénis. Mercredi aujourd'hui, mercredi 17 novembre, on vous rappelle qu'on a deux rendez-vous, donc celui où vous êtes branché ce matin pour notre bénédiction matinale, et on a rendez-vous aussi ce soir à 19h pour l'étude biblique. Et pour ceux qui voudraient venir en présentiel à l'église, vous savez que le mercredi, il n'y a pas d'inscription en soi, donc vous pouvez vous présenter directement à l'église, et puis on sera content et très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Sinon, bien entendu, ça sera disponible sur les plateformes internet qu'on utilise habituellement. Vous avez décidé, la belle-mère, de parler en italien marron. Bonjour Thérèse, sois bénie. 8h25, mais tu étais déjà là à 24, je crois. Hermana Flori, que Dios la bendiga. A usted y al hermano Luis también. Bonjour Sylvie, soyez bénie. Merci Sylvie. Immacula, que Dieu vous bénisse. Bienvenue parmi nous. Myriam, Donald, bonjour. Bernadette, bonjour. Denise, Gérard, bonjour. Natacha, Indirène et la petite famille, soyez bénis. On vous rappelle de surcroît que pour les inscriptions du culte de dimanche, donc les inscriptions en cours, vous pouvez soit nous écrire à l'adresse courriel de l'Église ou nous appeler au numéro du secrétariat et réserver vos places. Une première vague de confirmation va être faite ce soir après l'étude biblique. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. Marie-Marthe, bonjour. Si Marjolaine est à tes côtés, nous la saluons aussi. Encore 2 ou 3 minutes avant que nous ne commencions ce matin. Ceux qui veulent prendre des notes ou qui veulent ouvrir leur Bible déjà, vous rappelez que nous sommes encore cette semaine dans Jean chapitre 11, du verset 20 au verset 27. Et on étudie principalement les versets 25 et 26. Bonjour Charlotte, ça faisait quelques jours que je ne vous voyais pas en direct. Je sais que vous nous suivez, mais je ne vous voyais pas en direct. Alors, bien heureux de vous avoir avec nous, Charlotte. Que Dieu vous bénisse. Marie-Huguette, bonjour. Et salutations à Leïka et Gaël. Il semble qu'il y ait des petits problèmes d'interruption depuis quelques minutes. Je m'en excuse. À moins que ce ne soit que de mon côté, mais je pense qu'il y a quelques interruptions. Bonjour Méreste. Bonjour à Suze, si elle est avec toi. Et à la petite famille, mais le restant de la petite famille, assurément, est au travail. À l'école plutôt. On ne va pas les faire commencer à travailler tout de suite. Ils sont à l'école. Et toi, tu es en congé aujourd'hui ou tu nous regardes depuis le travail? Marie-André et Farley. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est embêtant. À chaque fois que je crois qu'on a remédié à la problématique, ça réapparaît d'une autre manière. C'est un peu... C'est casse-pied. Je vais juste couper certaines choses juste au cas. Mais je ne crois pas que ça change grand-chose dans la problématique. Alors j'espère que tu profites bien de ta journée de congé, Méreste. Alors on va prier et on va débuter l'enseignement du jour. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons encore de nous arrêter en ce début de journée pour étudier ta parole et recevoir quelques instructions qui viennent de toi, assurément une parole que tu as préparée de toute éternité pour nous tous, une parole que tu voulais profitable à notre croissance, à notre développement spirituel, à notre marche sous ton regard. Donc nous prions, Seigneur, d'être réceptifs à cette parole et que celle-ci, Seigneur, puisse vraiment s'enraciner en nous. Être concrète dans la vie des uns et des autres, afin, Seigneur, que nous portions un fruit qui t'est agréable dans nos actions et dans nos paroles, dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours. Que ce que nous faisons, Seigneur, ce que nous disons, ce que nous sommes, soit un sujet d'allégresse pour toi. Donc, nous prions que tu bénisses notre sœur, notre frère qui s'unit à nous ce matin, qui peut-être aussi regarderont cette vidéo plus tard en journée ou dans l'avenir. Qu'une même grâce, qu'une même onction, Seigneur, puisse nous habiter tous et chacun et que tu puisses, Seigneur, nous utiliser comme tu le désires. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous le savez, cette semaine, on approfondit un peu la prédication du pasteur Hannibal, prédication qu'il a prodiguée donc dimanche dernier et qui avait pour thème la résurrection. C'est une thématique qu'on a abordée à plusieurs reprises à travers les dernières semaines, que ce soit à travers des études le mercredi soir, que ce soit à travers les bénédictions matinales, que ce soit à travers des prédications le dimanche. Je sais que le pasteur Sergio aussi avait abordé cette thématique de la résurrection il y a quelques semaines. Donc, je crois qu'on est tous branchés à la même station et que le Seigneur nous guide de façon particulière actuellement sur cette grande et merveilleuse thématique de la résurrection de Christ. Message important, tout aussi important que le message concernant la mort de Jésus, qui serait tout à fait incomplète s'il n'y avait pas eu la suite, dont la résurrection. Donc, lorsqu'on parle du plan salvateur de Dieu, on devrait plutôt parler de la mort et de la résurrection de Jésus, et non pas simplement de la mort en soi. Donc, je lis pour vous dans Jean au chapitre 11, les versets 20 à 27, et je relirai les deux versets principaux, soit le verset 25 et 26 à la toute fin. Donc, Jean 11, le verset 20 nous dit « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Je reprends pour vous les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alors que Dieu puisse nous bénir ce matin et bénir cette parole, bien entendu. Certains pourraient croire que la partie que nous étudions aujourd'hui, qui va comme suit, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », est un pur rappel de ce qui a été dit hier. Je vous rappelle le verset 25 qu'on a terminé hier et qui disait « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et assurément, ce sont les mêmes mots qu'on étudie aujourd'hui. On étudie le verbe « croire », on étudie le verbe « vivre », on étudie le verbe « mourir ». Et c'est exactement les mêmes termes qu'on a étudiés hier. Donc « croire » « pisteo »,« vivre » « zao » et « être mort » Apotnesco. Ces trois mêmes verbes sont repris. Ces trois mêmes vocables sont repris. Et on pourrait se dire effectivement que c'est tout simplement une reprise de l'enseignement d'hier. Pourtant, c'est amené différemment. Et je crois qu'il y avait une intention toute particulière de Jésus quant à cet enseignement. Hier, on a vu un peu comment croire, comment agir lorsque nous sommes entourés par la mort. Que ce soit parce qu'un proche est venu à décéder et qu'on fait face à un deuil. Que ce soit parce que nous sommes nous-mêmes en cheminement vers une mort qui serait imminente. Que ce soit parce que nous faisons face à des tribulations et à des persécutions. C'était comment je me prépare, comment nous nous préparons en tant qu'enfants de Dieu et comment nous nous comportons en tant qu'enfants de Dieu par rapport à Dieu quand nous sommes dans ces moments difficiles et cruciaux de la vie. Aujourd'hui, on aborde la chose différemment. Donc hier, c'était « Je suis proche de la mort » ou « La mort m'environne, comment j'y réponds ? De quelle manière j'affiche ma foi ?» Et aujourd'hui, c'est « Dans la vie de tous les jours, comment j'affiche ma foi ?» Hier, c'était « Comment je me prépare à la mort ?» et aujourd'hui, « Comment je vis ?» Jésus va dire « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Un peu comme hier, on va défaire l'ordre dans lequel le verset place ses termes et on va y aller plutôt avec croire, puis vivre et enfin ne jamais mourir. Donc Jésus va dire, quiconque croit et vit ne mourra jamais. Croire, c'est effectivement le terme comme on l'a vu hier, pisteo. Donc pisteo qui veut dire avoir la foi, c'est la même famille que pistis, foi en grec, qui veut dire être persuadé, mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Et là, bien entendu, c'est croire en Jésus. Croire en ce Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Croire en ce Jésus qui dit « Celui qui croit en moi vivra quand bien même il ferait face à la mort ». Et ce même Jésus qui dit « Celui qui vit et qui croit en moi ne meurt pas ». Alors croire, qu'est-ce que ça veut dire ? Être persuadé de Dieu. Comme je l'expliquais hier, la foi n'est pas un « feeling » en bon québécois. Ce n'est pas tout simplement une question de sentiment. J'ai l'impression que, ou j'espère que. Non, la foi va beaucoup plus loin que ça. La foi parle d'une conviction profonde et viscérale. Le genre de conviction qui, même lorsqu'elle est attaquée, nous décidons délibérément de nous maintenir dans notre positionnement de foi. Un peu comme lorsque les gens viennent nous bombarder en nous disant que Dieu est une vieille histoire, que Dieu, l'histoire de Dieu s'est dépassée, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a que la science et tout cela. Lorsque je suis croyant et que je suis bombardé par ce genre d'argumentaire, la foi fait en sorte que malgré tout ce que j'entends, malgré tout ce que je vois, malgré tout ce qui survient autour de moi, je continue à croire. La première question pour toi et pour moi, donc, c'est quel est l'état de ma foi? Quel est l'état de ta foi? Si celle-ci est chambranlante, si celle-ci est en train de diminuer, rappelons-nous ce que le père de l'enfant malade va rétorquer à Jésus qui lui dit qu'il a simplement à croire et que son enfant sera guéri. Et le père va dire, viens au secours de mon incrédulité. Et j'aime cette phrase, viens au secours de mon incrédulité, parce que ce père avoue, par conséquent, que la foi qu'il a n'est pas à son maximum. Que la foi qui l'habite n'est assurément pas aussi forte qu'elle devrait être. Et chacun d'entre nous, quel que soit le niveau de foi qui nous habite, qui nous anime, cette foi peut être encore plus forte, encore plus ferme, encore plus définitive dans notre vie. Et voilà pourquoi il est approprié tout à fait de faire cette même prière que ce papa qui, voulant la guérison de son enfant, va dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. À nous aussi, en tant que croyants, de dire au Seigneur, Seigneur, lorsque tu vois que ma foi est chambranlante, lorsque tu vois, Seigneur, que ma foi est en train de diminuer, Seigneur, viens à mon secours, viens au secours de ma foi. La foi, être persuadé de Dieu, et mettre sa totale confiance en Dieu. Mettre sa totale confiance en Dieu. Quel est l'abandon que tu expérimentes par rapport à Dieu? Est-ce que tu lui fais confiance à un tel point que les rênes de ta vie ont été cédées entre les mains de Dieu? Hier, on parlait que la vie pouvait peut-être s'arrêter dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Aujourd'hui, on se dit, mais disons que j'ai encore des décennies et des décennies. Ou même si je n'avais qu'une seule journée à vivre, cette journée, vais-je la vivre en donnant à Christ les rênes complètes de mon existence? Vais-je vivre cette vie comme quelqu'un qui a vraiment cru? Le terme « croire » dans la pensée judaïque n'est pas simplement un fait idéologique, n'est pas simplement une question de pensée, une question de réflexion. Mais la croyance entraîne des actions. La croyance entraîne des prises de position. Et la croyance entraîne un affichage d'une position. Tu ne peux pas simplement croire de façon interne. Tu ne peux pas simplement croire à Dieu de façon privée au fond de ton cœur. La croyance en Dieu va susciter des actions. Ou la croyance en Dieu va empêcher des actions. Si je crois en Dieu, assurément, je vais croire aussi dans ses préceptes. Je vais croire dans ses commandements, je vais croire dans ses attentes, dans ses demandes et ses exigences à mon égard. Je ne peux pas dire que je crois que Dieu est Dieu, donc qu'il est bon, qu'il est majestueux, qu'il est glorieux, qu'il est digne de recevoir toute gloire et tout honneur, et ne pas vivre en conséquence. Lorsque j'affirme croire en Dieu, ça devrait, de façon sine qua non, impliquer un comportement particulier, impliquer un abandon particulier, impliquer ou engendrer une vie selon le modèle de ce même Dieu. Ça veut dire que je devrais fuir la tentation et fuir le diable et résister au diable. Mais en contrepartie, que je devrais vouer ma vie à vivre cette vie selon les normes, selon la pensée, selon les règles imposées par Dieu. Alors, est-ce que je vis effectivement cette vie comme je devrais? Rappelons-nous ce que veut dire le terme « vivre », le terme « zao », « respirer ». Il y a quatre ou cinq déclinaisons ou quatre ou cinq connotations à ce terme « zao ». Premièrement, « respirer ». Respirer, c'est tout simplement être en vie. Donc, si je crois en Dieu, je lui remets ma vie. Lui as-tu remis ta vie? Lui ai-je pleinement remis ma vie? Ou lui ai-je simplement donné certaines sections? Ou certains moments? Certaines personnes vivent leur vie chrétienne le dimanche matin lorsqu'ils vont à l'église. Ou le mercredi soir lorsqu'ils vont à l'étude biblique. Ou lorsqu'ils sont dans un environnement chrétien. Mais le restant de la semaine, alors qu'ils sont livrés à eux-mêmes et qu'ils font leur chemin de vie au sein de la population en général, bien à ce moment-là, ils ne sont plus chrétiens. Ils sont de nom, mais de comportement, ils ne le sont que lorsqu'ils sont dans un environnement dit, entre guillemets, chrétien. Il n'y a pas un environnement chrétien et un environnement mondain. Il y a une vie que je mène pour Jésus ou une vie que je mène pour autre chose. Il y a une vie que j'exerce pour Christ ou une vie que j'exerce pour moi ou pour autre. La question est, pour qui vis-tu ta vie? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu mènes ta vie comme pour Christ? Alors as-tu effectivement remis l'ensemble de ton existence à Dieu? Mais ça va plus loin que respirer. On disait que Zah voulait dire aussi être actif. Alors ta vie que tu as remise à Dieu parce que tu crois en Dieu et tu crois qu'il demande ta vie. Tu sais donc que ta vie devrait être une vie de service. Puisqu'un des titres que nous portons en tant qu'enfants de Dieu, c'est serviteur de Dieu. Puisque lorsque nous allons faire face à Dieu, en entrant dans l'éternité, ce que nous voulons entendre, c'est bon et fidèle serviteur. Un serviteur est appelé serviteur parce qu'il a servi. Alors notre vie en tant qu'enfant de Dieu, une vie de service, une vie de serviteur de Dieu, ne peut pas porter cette appellation à moins qu'effectivement nous la consacrions au service de Dieu. Voilà pourquoi le terme Zah va nous parler d'être actif, donc d'être impliqué auprès de Dieu. Es-tu impliqué dans le royaume de Dieu? Es-tu impliqué dans l'avancement du royaume de Dieu? Es-tu impliqué à l'œuvre de Dieu? Foncièrement, portes-tu simplement l'appellation de serviteur de Dieu ou peux-tu concrètement dire « voici ce que je fais pour Dieu ». Un serviteur sait qu'il a servi. D'autant plus qu'un serviteur est payé. Un serviteur est un salarié. Nous ne faisons pas les choses pour Dieu de façon bénévole. Bien sûr, on le fait par amour ou on devrait le faire par amour, mais la Bible nous dit que tout travail mérite son salaire et tout serviteur mérite son salaire. Ça veut donc dire que des œuvres que je pose pour Dieu, du travail que je mène de ce côté-ci de l'éternité, il y a un salaire. Et aucun d'entre nous ne va à l'entreprise le matin, ne va au travail le matin en se disant « je vais faire quelque chose aujourd'hui, mais je ne saurais pas le quantifier et puis je recevrai mon salaire à la fin de la semaine ». Non, quand on va travailler, on veut être capable de prouver au patron qu'on a travaillé et justifié notre salaire. Peux-tu justifier ton salaire devant Dieu? Peux-tu effectivement justifier d'être salarié comme serviteur de Dieu? Alors, es-tu actif, impliqué auprès de Dieu? Mais ça va plus loin que simplement être impliqué ou être serviteur. Il y a de bons, il y a de mauvais serviteurs. Les deux sont serviteurs. Un fait bien son boulot, l'autre le fait mal. Un fait son job, l'autre ne le fait pas. Un des termes pour Zao, vivre, c'est aussi être efficace. Donc non seulement est-ce qu'on sert Dieu, mais est-ce qu'on le sert d'une façon efficace? Est-ce qu'on est utile à Dieu? Il y a des gens qui sont engagés pour une chose, mais ils passent leur journée à faire autre chose. Il y a des gens qui vont au travail et ils ont tel titre, donc tel mandat, mais parfois ils passent la journée à faire quelque chose qui n'est pas dans leur champ d'action. Ça, c'est du bénévolat. Nous sommes salariés pour le travail que nous faisons auquel Christ, notre patron, nous a appointé. Suis-je efficace pour Dieu? Est-ce que je suis utile à l'avancement du royaume? Et comprenons une chose, nous avons tous l'appel, le mandat et la possibilité d'être utile. Dieu t'a créé pour un propos. Dieu t'a amené sur cette terre parce qu'il avait un propos, un dessein, un travail qu'il te voulait voir accomplir. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas le fruit des circonstances, tu es le fruit du désir de Dieu de t'avoir comme serviteur. Donc lorsque Dieu t'a créé, lorsqu'il pensait même à toi des millénaires et des millénaires avant que tu n'existes. Dieu te connaissait déjà. Dieu avait déjà un mandat pour ta vie. Donc, il avait quelque chose qu'il voulait que tu fasses. Chacun d'entre nous, on a cette chose particulière que Dieu nous a donnée. Ce mandat particulier qui nous a été octroyé pour Dieu. Malheureusement, certains d'entre nous, on arrive à la fin de notre vie et on peut se demander, ai-je fait ce que je devais faire? Certains vont se demander, mais pourquoi je suis passé ici-bas sur terre? Que j'ai eu 50, 60, 70 ou 80 ans ou 100 ans même à vivre. Certains arrivent au crépuscule de leur vie et ils se demandent, mais est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Pourquoi j'ai été ici-bas? Et très souvent, le malheur de ce questionnement vient surtout du fait de ne pas avoir accompli ce pour quoi le Créateur nous a fait. Le seul moyen que ta vie soit utile à Dieu, c'est donc que tu aies vécu la vie qu'il voulait que tu vives. Et voilà pourquoi, encore une fois, croire ici est important. Si je crois en Dieu, je vais donc me soumettre au plan de Dieu. Je vais donc embrasser le plan de Dieu et vivre la vie qu'il avait dessinée pour moi. Je vais chercher à lui plaire. Je vais chercher à remplir le rôle qu'il voulait que je remplisse. Mon ami, mon frère, ma sœur, Dieu avait un plan pour toi de toute éternité. Et tu es encore vivant aujourd'hui. Peut-être qu'il te reste quelques jours. Peut-être qu'il te reste quelques décennies. Tu as encore l'occasion de faire aujourd'hui ce que Dieu t'appelle à faire. Vous savez, lorsque j'ai été malade, ça a changé un peu ma vision de l'avenir. Un peu comme tout le monde, à l'époque, avant la maladie, j'aurais pu vous dire, dans 10 ans, j'aimerais être rendu là-bas. Ou dans 20 ans, voici ce que je voudrais faire. Je disais parfois à la blague, moi je veux mourir à 95 ans. Je veux avoir accompli ma vie. Je meurs, on me pleure, on m'enterre et après 3 jours, Jésus peut revenir. Mais je voulais vivre 95 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 heures devant moi. Et je veux m'assurer d'avoir bien rempli ces 24 heures. Je ne sais pas combien de 24 heures j'ai encore devant moi. Mais ma vie aujourd'hui se limite à ce 24 heures que j'ai aujourd'hui. À m'assurer que ce 24 heures a été rempli comme il devait être rempli. Que ce 24 heures ait été vécu comme il devait être vécu. Je prie effectivement à tous les jours, Seigneur, j'ai cette nouvelle journée qui m'est donnée. Je prie d'entendre ta voix qui me guide, qui me mène à faire ce pourquoi j'ai été créé et ce pourquoi tu me donnes encore ce 24 heures. Et demain, si j'ai encore un 24 heures, je dirais, Seigneur, j'ai encore un nouveau 24 heures devant moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que mon intérêt, c'est d'être actif et d'être utile pour Christ. Plus encore, vivre va avoir comme dernière déclinaison être puissant. Donc, respirer, mettre sa vie entre les mains de Dieu, être actif, donc être impliqué auprès de Dieu, être efficace, donc être utile dans mon implication auprès de Dieu, et être puissant. Quand on parle de quelque chose qui est puissant, c'est que nécessairement, il a été comparé à d'autres choses qui ne sont pas aussi puissantes. Lorsqu'on dit que quelqu'un est puissant, c'est qu'on le compare à un état d'impuissance. Lorsqu'on dit que quelqu'un est fort, c'est qu'on le compare à la norme où on est moins fort que lui. Lorsqu'on parle donc d'être puissant, on parle donc d'exceller pour Dieu. Une quête qui devrait être la tienne et la mienne. Trop souvent, on vit cette vie en disant « Ah ben, je donnerai à Dieu ce qui viendra entre mes mains ». Et on lui donne un peu une vie vaille que vaille, une vie où on espère qu'il pourra se contenter de ce qu'on lui donne, au lieu de mener cette vie en allant de progrès en progrès. Paul va nous dire que notre vie, notre service devrait aller de progrès en progrès, que nos progrès devraient être visibles de tous. Je ne peux pas progresser si je ne cherche pas l'excellence. Je ne peux pas progresser si je ne cherche pas un point meilleur que celui d'aujourd'hui. On parlait que nous avons 24 heures. 24 heures pour servir. Ce matin, on s'est réveillé, on a quelques heures où on a 24 heures devant nous. Demain, on se réveillera, on aura quelques heures ou 24 heures devant nous. Pouvons-nous nous assurer que notre 24 heures aujourd'hui soit mieux utilisée que celui d'hier? Et demain, pourrons-nous nous assurer que notre prochain 24 heures sera encore meilleur que celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que je veux exceller pour mon Dieu? Ou en fait, je lui donne ce qui est là, en espérant qu'il pourra être le moindrement du monde contenté. Lorsque je vis pour Jésus, lorsque je crois qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ça doit m'amener non seulement à lui donner toute ma vie, à être impliqué pour lui, à être dans cette quête d'être utile pour lui, et enfin dans cette quête de lui donner le meilleur de moi-même. Et Jésus va dire, quiconque vient et croit en moi ne mourra jamais. Hier, on a vu que mourir, c'était le terme qui était utilisé, donc le terme apotnesko, je répète bien, apotnesko, un terme compliqué pour moi, voulait dire ce processus à travers lequel on arrive vers la mort. Nous parlait donc de l'agonie, nous parlait donc aussi de périr, donc du malheur qui nous tombe dessus sans qu'on soit en contrôle, ou voire parfois être mis à mort. Trois points qu'on avait vus hier, l'agonie, le malheur, et puis le martyre ou la persécution. Jésus était en train de dire, celui qui croit en moi va vivre pleinement comme le serviteur qu'il doit être. Et cela, même dans ses derniers jours, même lorsque le malheur tombe sur lui, même lorsqu'il est persécuté. Quand j'étais malade et je devais aller faire la chimiothérapie, un des points d'honneur que je mettais à ma journée ou que je mettais à cette période-là, c'était d'utiliser toutes les occasions qui m'étaient données pour faire un pied de nez à la maladie, pour faire un pied de nez à ce que la maladie voulait engendrer sur moi. Si la maladie avait voulu me réduire au silence, je parlais encore davantage de Jésus, bien entendu. Je trouvais toutes les occasions nécessaires, profitables ou non, favorables ou non, pour parler de Jésus. Et je vous dirais que c'est quelque chose qui m'est resté. Hier, j'allais chercher des meubles pour le jardin qui étaient très lourds et j'y suis allé tout seul. C'était beaucoup plus lourd que je ne pensais et à soulever les choses pour le mettre dans la voiture, je croyais être malade. Et la dame qui était avec moi m'a dit « Vous êtes très essoufflé ». Et je lui ai dit « Oui, depuis que j'ai été malade, la force physique n'est pas revenue comme auparavant ». Et elle m'a demandé « Mais qu'est-ce que vous avez eu ?» Et c'était une occasion favorable ou non. J'étais essoufflé. Je suais comme un demeuré. Je pensais même être malade tellement j'étais mal en point. Mais cette occasion-là, je n'allais pas la rater. Et je lui ai parlé de mon témoignage, de mon histoire. Mais chacun d'entre nous, on a un témoignage. Chacun d'entre nous, on a ces occasions où Dieu a marqué la différence dans notre vie. Et on ne peut et on ne devrait parler que de ce que Dieu a été pour nous, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il est pour nous. Nous sommes des témoins au service de Dieu. Alors des témoins qui témoignent parce qu'au service de Dieu. Mon frère, ma sœur, que ce soit parce que
Dieu te place dans une situation. Que ce soit que la mort est en train d'approcher, que ce soit qu'un malheur t'est tombé dessus, ou que ce soit que tu es sous attaque, sous persécution. Ça ne devrait en aucun cas changer la qualité de ton service, changer la qualité de ta vie pour Jésus. Soyons fiers. Faisons un pied de nez au diable. Prenons toutes les occasions qui nous sont données pour dire la réaction de l'homme qui n'est pas sage, de l'insensé, ce serait de se taire. Moi, je vais parler. La réaction de celui qui ne connaît pas Dieu, ça serait de se morfondre. Moi, je vais me lever et je vais parler. La réaction de celui qui ne connaît pas Dieu, ça serait de vivre en ermite et de s'enfoncer dans son malheur. Moi, je vais me lever et je vais servir mon Dieu. Parce que je sais qui il est. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Et parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais s'il me reste une journée, je veux que ce dernier 24 heures, je l'ai vécu à son maximum. Pour que lorsque je rentre dans la présence de Dieu, je puisse entendre « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Parce que j'aurais bien servi. Parce que j'aurais servi avec toute mon ardeur. Parce que j'aurais cherché l'excellence. Parce que j'aurais été le serviteur que Dieu voulait que je sois. Alors quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole ce matin qui nous met au défi de vivre notre vie pleinement pour toi. Pas la vie selon nos critères, nos pensées, nos orientations, les desseins qu'on se fait nous-mêmes. Mais vivre cette vie à laquelle tu nous as appelés et pour laquelle tu nous as créés et pour laquelle tu rêvais de nous de toute éternité. Seigneur, je ne veux plus te décevoir. Je ne veux pas vivre en bas des standards que tu avais établis pour moi. Je veux répondre à ton appel. Je veux répondre au mandat que tu avais fixé pour moi. Et je veux te remettre toute ma vie. Je veux être impliqué dans l'avancement de ton royaume. Je veux être considéré utile par toi parce que tu auras apprécié le travail que j'ai fait pour toi. Et je veux chercher à te donner à chaque jour un meilleur rendement encore pour t'être agréable. Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère dans l'ouvrage de leurs mains aujourd'hui. Utilise-les à ta gloire et permets-leur de réaliser pour qui ils travaillent, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, leur sauveur et leur Seigneur, Jésus. C'est en ton nom qu'on a prié. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle deux petites choses. Ce soir, il y a études bibliques pour ceux qui voudraient venir à l'église. Vous savez, ce n'est pas la peine de s'inscrire pour le mercredi soir. Vous vous pointez, même une heure avant l'étude biblique qui débute à 19h, les portes sont déjà ouvertes. Donc, si vous pouvez et vous le désirez, on vous attend donc à 19h ce soir. De surcroît à ça, donc inscription pour le culte de dimanche par boîte vocale. Vous appelez au numéro de l'église, vous laissez votre message ou sinon en nous écrivant donc au courriel du secrétariat de l'église. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Rappelez-vous que vous avez le défi aujourd'hui de vivre pour Jésus, de vivre comme des gens qui ont vraiment cru en Jésus, qu'on puisse voir la différence, qu'on puisse sentir la différence et que vous puissiez plaire à votre Maître, à votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.